présentée par Perrine Carvran et préparée par Rachel Rimer, une émission de la Fondation pour la mémoire de la Shoah avec RCJ. Bonjour à tous. Comme tous les dimanches, Mémoire vive met au présent l'histoire de la Shoah et la culture du judaïsme. Au sommaire de l'émission d'aujourd'hui, un itinéraire biographique, celui de Primo Levi, qui fut témoin de la Shoah, mais aussi et surtout écrivain. Philippe Ménard retrace la vie d'un homme qui a grandi auprès de parents distants, à l'ombre du fascisme mussolinien, celui d'un jeune homme brillant qui aurait pu devenir un chercheur en chimie, celui d'un jeune homme qui a connu l'antisémitisme et les camps nazis dont il est revenu pour livrer un témoignage littéraire qui fera date, si c'est un homme. Mais ce parcours est aussi celui d'un homme inquiet, désormais tiraillé pour toujours entre son rêve d'écriture, son devoir de témoin, ses souvenirs envahissants et sa vie de famille étouffante, autant de failles qui peuvent expliquer que Primo Levi se suicide en 1987 à l'âge de 68 ans. Avec nous pour en parler, l'auteur de cette riche biographie, Le passage d'un témoin, qui vient de paraître aux éditions Fayard. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour. Pour commencer, Philippe Ménard, est-ce que vous pouvez nous dire ce qui vous a donné envie de travailler sur Primo Levi et de lui consacrer une biographie, puisque vous le dites dans votre avant-propos, d'autres déjà avaient fait ce travail?
Oui, en fait, c'est les premières biographies qui avaient été écrites l'avaient été peu de temps après sa disparition, ce qui fait que depuis, un certain nombre de pièces nouvelles ont pu émerger, aussi bien en ce qui concerne l'histoire de la résistance et son implication, la mémoire juive en Italie et tout son travail d'écriture. Donc c'est quand même un des éléments les plus importants. Et puis en fait aussi après, c'est la connaissance progressive de l'homme, puisque j'avais déjà fait, j'ai déjà publié des textes inédits de lui en français, et aussi une exposition. Et c'est la découverte de la complexité de cet homme, qui est souvent présenté comme un témoin, on peut dire, simple et clair, donc quelqu'un d'assez transparent, et qui, alors qu'au fur et à mesure que, à la fois, je m'étais lancé dans ce travail et que de nouvelles pièces pouvaient sortir ou des propos peut-être un peu différents de ses proches, le temps passant, que la complexité véritablement de l'homme, ses différentes facettes, ses ambiguïtés, ses propres tourments intérieurs en ce qui concerne à la fois le rapport à la mémoire, mais aussi la question de l'écriture et sa vie privée. On fait autant de facteurs qui m'ont attaché à lui d'une certaine manière. Hein. C'est difficile de travailler comme ça sans être sur un homme, sans être attaché, enfin, sur une grande figure, sans être attaché aussi à sa personnalité et à sa psychologie.
Oui, on sent d'ailleurs en lisant votre travail qu'effectivement vous êtes attaché à Primo Levi. Et ce qu'on voit bien aussi, c'est l'importance et l'impact sur Primo Levi donc, et sur sa génération d'une jeunesse dans l'Italie fasciste. Ça, vous insistez bien sur ce point-là et c'est quelque chose qui peut paraître nouveau quand on s'intéresse à Primo Levi, c'est l'avant camp de concentration, l'avant déportation. Et donc vous racontez l'embrigadement des enfants, le bain culturel mussolinien, le dénigrement des sciences et le climat dans lequel il grandit.
Oui, absolument. En fait, Primo Levi, qui naît en 1919, ça veut dire qu'il a toute son éducation scolaire depuis la première enfance, et même en dehors de l'école, les activités dans les groupes de vacances ou de loisirs étaient conditionnées par le fascisme. Ce qui est assez intéressant, parce qu'en fait, le conditionnement par le fasciste, alors c'était une tentative d'embrigadement à laquelle, d'une certaine manière, il a pu naturellement se soustraire dans la mesure où il était d'assez faible constitution physique jusqu'à l'adolescence. Ce qui fait que souvent malade, il faisait pas partie des groupes sportifs et il n'était pas porté comme ça par l'enthousiasme de l'héroïsme, entre guillemets, mussolinien. Mais aussi, c'était un rejet des sciences et de tout ce qui pouvait être d'une certaine manière la rationalité explicative, parce qu'effectivement si on commençait à chercher des explications aux grandes images mussoliniennes et aux grands mythes fascistes, on les faisait très vite tomber. Puis aussi des auteurs très classiques, une formation très classique, ce qui lui a valu par exemple son attachement à Dante. Et tous les Italiens connaissent Dante par cœur, mais il a un attachement particulier qui fait qu'après guerre le milieu proprement littéraire, qui était plutôt orienté vers une écriture un peu comme le nouveau roman, donc un travail de libération qui se, de libération des conventions d'écriture, tout ce champ littéraire l'a plutôt mis à l'écart ou l'a pas accepté, l'a pas invité. Et ça, c'est véritablement sa formation, la formation d'un jeune homme, on va dire un jeune homme juif évidemment à Turin, mais d'un jeune homme sous le fascisme. Et puis il y a la question de la communauté juive qui était extrêmement intégrée, au point que son père se trouve à prendre sa carte du parti fasciste. Non qu'il ait été attiré par, on peut dire, par le versant répressif du fascisme, hein, le versant dictatorial du fascisme, mais plutôt par une espèce d'idéologie progressiste qui apparaissait juste après-guerre. Donc après, l'Italie s'est engagée tardivement dans la guerre de 14, mais en même temps, la situation sociale et économique était extrêmement trouble et extrêmement et beaucoup d'insécurité et donc un certain nombre de personnes ont pu d'Italiens et de Juifs italiens ont pu s'engager pas s'engager comme militants mais ont pu croire que le fascisme mussolinien qui n'avait pas du tout le même discours que le nazisme et vis-à-vis des Juifs a fortiori pouvait leur apporter des réponses une société plus équilibrée et on voit bien ça. Même ça a pris. C'était un grand leurre parce que beaucoup ont cru très très tard et longtemps que le fascisme allait les épargner et que d'une certaine manière, de l'autre côté des Alpes, par rapport à l'Allemagne et à l'Autriche, bon, ils pouvaient vivre, certes, avec de plus en plus d'humiliation, mais en même temps sans que leur vie soit mise en danger. Hein. Et ça, ça a été un grand leurre hein, qui a fait qu'après, ils se sont fait arrêter, rafler, déporter.
Oui, vous montrez bien effectivement que c'est cet antisémitisme insidieux qui a mis du temps à se déclarer et qui fait que effectivement beaucoup de toute la communauté juive italienne a mis du temps à se mobiliser, voire a pu être aveuglée finalement par ce fascisme.
Oui, oui, tout à fait. C'est-à-dire que il y avait alors effectivement il y avait cette le fait qu'on pouvait croire que on s'accommoderait. On s'accommoderait parce que effectivement, jusqu'en 1934-35, Mussolini s'était au contraire nettement démarqué de l'antisémitisme nazi, et donc par des discours qui étaient bien clairs. Il avait dans son cercle de très 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 proches hein, des juifs avec qui il avait véritablement travaillé. Et puis il y avait aussi ce côté qui peut être un peu une image, comme un cliché italien, mais qui a véritablement fonctionné d'arrangement, ce qui fait que par exemple au moment où une loi, bon les lois se sont succédées à peu près comme dans tous les pays tous les pays fascistes à partir de 38 et sous l'occupation de manière encore plus rapide et radicale, mais il y a eu un moment où on a demandé non seulement à tous les juifs de s'enregistrer mais aussi d'effectuer des travaux qui ne sont pas des travaux forcés au sens où on l'entend en France, mais des travaux publics bon, qui étaient des travaux forcés dans la rue. Hein, bon. Donc chaque juif italien dans sa ville devait descendre pour dépaver les rues. Mais très vite, ce qui s'est passé, c'est qu'ils se sont fait faire des certificats médicaux et finalement... pratiquement personne n'y a été. Oui, ils y sont allés une journée, deux journées, et après... Et donc, on arrivait à s'arranger. Et on arrivait à croire qu'effectivement, avec l'administration, sauf pour des décrets radicaux, par exemple, ce qui concerne l'école, où là, effectivement, ils n'avaient plus accès à l'école ou plus accès à l'université. Mais pour le quotidien, la mise au ban a été progressive et n'atteignait pas, on peut dire, la condition vitale hein, de leur existence. Hein. Et là, c'est bien la preuve. Parce que finalement, les travaux forcés, personne ne les a fait, ou très peu de temps. Et puis tout le monde s'est retrouvé tranquillement avec des certificats de médecin et à l'abri des persécutions, jusqu'au moment où les Allemands sont arrivés.
Alors vous montrez aussi, Philippe Ménard, et ça c'est quelque chose d'assez nouveau, que donc Primo Levi, avant son arrestation, s'était rapproché d'un groupe de jeunes gens qui voulaient entrer en résistance.
Alors oui, la question de la résistance, elle est un petit peu à l'image de cette période extrêmement trouble et pleine d'incertitudes qui démarre à peu près vers juin, juillet 43. jusqu'à décembre 1943, hein, pendant ces 6 mois. Il y a la chute de Mussolini, bon, qui est révoquée, on peut dire, légalement par le roi. Donc à ce moment-là, effectivement, les antifascistes, qui est le mouvement antifasciste à la fois de Justice et Liberté et du Parti communiste qui existait donc bien avant, là, commencent effectivement à avoir une ouverture publique et une action d'envergure. Là, effectivement, Primo Levi se rapproche par l'intermédiaire de sa sœur, hein, qui est beaucoup plus engagée que lui et qui le sera beaucoup plus, d'antifasciste, de Justice et Liberté. Et puis, à partir entre le 8 et le 10 septembre, donc il y a la destitution de Mussolini et puis l'invasion du nord de l'Italie par les troupes allemandes, là, Primo Levi se réfugie avec sa sœur et avec sa mère dans une petite vallée des Alpes, près de la France. Et il fréquente des groupes qui étaient à la fois des groupes de soldats italiens mais qui étaient déserteurs, des groupes de partisans communistes et des groupes d'antifascistes. Et tout ce monde se croise, y compris des espions fascistes. Alors là, il arrive à nouer il noue des relations avec quelques résistants, mais qui sont des résistants sans armes, qui sont des résistants qui se cherchent encore. Hein. Rien ne s'est... Tout est extrêmement incertain, la situation est même difficilement compréhensible pour ceux qui se trouvent dans ces vallées. Donc même il le dira tardivement, un intérêt et comme une volonté de vouloir s'engager dans la résistance, mais qui sera véritablement assumé par sa sœur, qui, elle, part de l'endroit où ils sont réfugiés, avec sa mère, pour aller à Turin, et là, entrer véritablement dans la résistance. Alors que lui, il reste un peu dans cette zone d'incertitude, avec deux amis avec lesquels il sera déporté, mais en même temps, ne sachant pas si c'est ou la résistance ou la fuite vers la Suisse, parce qu'il y a beaucoup de juifs italiens qui essayaient de fuir vers la Suisse. Un grand nombre, même tragiquement, a été refoulé et après a été déporté à Auschwitz. Donc ils sont un petit peu entre la fuite vers la Suisse, se réfugier vers la Suisse pour attendre que la guerre se termine, puisqu'on savait que de toute façon la guerre allait se terminer à l'avantage des alliés, ou pouvoir entrer dans la résistance. Et c'est à ce moment-là qu'il se fait arrêter. Ce qui fait qu'il est presque plutôt un témoin de la résistance que véritablement un résistant, parce qu'ils n'ont pas d'armes, ils n'ont pas de savoir-faire, alors qu'à côté, dans la vallée d'à côté, il y a des maquis qui sont eux organisés, mais qui, triste ironie de l'histoire, se font plutôt de rivalité entre Justice et Liberté et les maquis communistes. Hein. Donc il est témoin de cet ensemble-là plutôt qu'un véritable résistant.
Donc vient ensuite, hein, Philippe Ménard, le moment clé du parcours de Primo Levi, donc le moment où il est déporté, donc il est à Auschwitz, et puis où finalement il travaille dans l'usine de Buna Monowitz, ce qui lui permet de survivre. Et au retour, il fait donc ce livre, Si c'est un homme, qui est donc le livre qui va le faire connaître et pour lequel il est encore connu aujourd'hui. Et vous racontez comment ce livre a été élaboré, comment une première version est rédigée au retour, qui paraît en 1947, donc très tôt, très vite après la fin de la guerre, puis complétée, réagencée, et comment il est finalement il souffre toujours d'une reconnaissance tardive par rapport à ce livre.
Oui, c'est-à-dire que En fait, le livre est publié par une petite maison d'édition, qui est dirigée par un ex-partisan, donc par un résistant, parce que la première version du livre a été refusée par Einaudi, la grande maison d'édition. A été refusée justement au prétexte que, à la fois, c'était des écrits sur le retour des camps que la société... disait Pavès et ne voulait pas entendre, et d'autre part parce que un certain nombre de, on peut dire, des références littéraires de Primo Levi ne plaisaient pas à Pavès. Hein. Bon, c'était quand même. Alors Pavès ne lui a pas adressé ce refus directement, mais par l'intermédiaire de Natalia Ginzburg. Mais donc effectivement, il y a un premier tirage avec qui est quand même assez faible, à un moment où un livre de Calvin sort sur la résistance, donc c'est plutôt les livres sur la résistance sens qui a du succès plutôt que le livre sur la déportation, parce qu'effectivement, ce livre sur sa déportation, c'est aussi une idée extrêmement négative et une vision extrêmement sombre de ce qui a pu se passer pendant la guerre et de la persécution des Juifs, dont on parlait peu, qui avait quand même sa place, mais dont on parlait quand même peu. Et puis après, il finit par être réédité 11 ans plus tard par Einaudi, par cette grande maison d'édition. Mais ça traîne encore un petit peu. C'est-à-dire que le livre a un succès d'estime, hein, comme on dit, mais il faut véritablement attendre la trêve pour qu'on voit au niveau des tirages. Hein, ça plafonne entre 58 et 63. Ça a même tendance à baisser. Et pour un grand livre, on en est à des tirages qui sont 1000, 1500. Hein, donc c'est quand même très peu. Et puis, avec la trêve, c'est avec ce récit du retour, donc d'un retour à la vie, d'un retour au pays, d'un retour, bon, une image qui était beaucoup plus positive pour les lecteurs de l'époque, et puis de rescapés, donc qui ont survécu, et non pas d'êtres qui sont ou assassinés dès leur arrivée, ou réduits à la mort au bout de quelques mois. Donc avec cette image très positive de la trêve, si c'est un homme, là, est véritablement entraîné et ramené à la surface par la trêve et devient le livre qu'on connaît.
Oui, d'ailleurs, vous comparez, vous mettez en parallèle ce livre donc, de Primo Levi, c'est un homme, et puis celui de Robert Antelme, L'espèce humaine, qui lui traite donc, de l'expérience concentrationnaire, pas de l'extermination, bien sûr, et qui lui met en scène une espèce humaine indestructible, là où, en faisant une lecture marxiste, là où finalement Primo Levi, lui, montre qu'il y a un échec, qu'il y a on pourrait dire un point aveugle de l'expérience humaine.
Voilà, tout à fait. Et c'est vraiment ce qui les sépare. C'est-à-dire que Robert Antelme, effectivement, est dans un camp satellite de Buchenwald, qui est un camp de concentration, avec des déportés qui sont la plupart résistants, et n'est pas du tout confronté à la Shoah. Et il le dit, hein, il le reconnaît. Mais à côté de cela, dans son raisonnement même, Robert Antelme, qui a beaucoup inspiré après Maurice Blanchot, estime que l'homme est indestructible. L'homme est indestructible et de toute façon, le SS voudrait-il le détruire, qu'il ne pourrait pas parce que le SS appartient aussi à l'espèce humaine et donc il y a une espèce de résistance au-delà même de résistance de l'humain dans l'homme, au-delà même des actes. Bon. Alors que Primo Levi, par une espèce de double expérience de l'extermination, d'abord parce qu'effectivement, après la sélection, les déportés juifs ont rapidement compris, parce qu'on leur a dit que la partie du convoi qui avait disparu avait été assassinée, et aussi parce que, se retrouvant à Monowitz, dans un camp qui était majoritairement occupé par des déportés juifs, il se rend bien compte que de toute façon, la condition concentrationnaire, même si à Monowitz c'était à la fois partagé, l'administration était partagée par la SS et par IG Farben, que bon, les Juifs étaient destinés à être assassinés. Donc il a cette vision qu'il retrace tout à fait dans l'avant-dernier chapitre de Si c'est un homme, qui a pour titre Le dernier, où l'ensemble des déportés assistent à l'exécution, tel qu'il la raconte, hein, d'un déporté qui voulait appuyer un mouvement de résistance de la révolte des Sonderkommando le 7 octobre et qui voulait lancer lui-même un mouvement de résistance à Monowitz. Et donc, ils ont tous en face de lui le résistant qui vient comme une figure exemplaire être pendu et juste avant qu'on lui passe la corde au cou, qui dit « Je suis le dernier ». Alors que tous les autres, évidemment, sont censés, et c'est cette vision que décrit Primo Levi, ne plus être du côté de l'humanité, et que cette résistance qui tient à cœur à Antelme n'existe plus pour Primo Levi du côté de la grande masse des déportés.
Alors votre livre raconte aussi comment peu à peu Primo Levi s'est senti investi au sein d'associations d'anciens déportés, comment il a pris en main ce rôle de témoin, puis comment aussi il s'est documenté pour comprendre la spécificité juive de la Shoah, et puis finalement comment il s'est aussi lassé, comme il dit lui-même, un moment de jouer au témoin. Donc il y a un basculement
Voilà. Alors, il y a un basculement, il y a une fatigue, une érosion, il y a un basculement à la fin des années 70. Bon, les années 70 sont des années terribles pour un... Et je pense que c'est aussi un aspect qui a été assez peu mis en évidence. Ce sont des années terribles pour les déportés, parce que... et les déportés juifs en Italie qui véritablement formaient une communauté et qui échangeaient entre eux, parce qu'ils sont confrontés à deux terrorisme, au terrorisme fasciste, au terrorisme brun, qui revient. Donc c'est comme si finalement, dans les années 70, 30 ans après, on pouvait encore semer la terreur, les fascistes pouvaient encore semer la terreur, mais aussi un terrorisme rouge qui leur fait se demander...
Celui des brigades rouges.
Voilà, celui des brigades rouges, qui leur fait se demander, mais finalement, nous qui étions ou proches ou résistants, hein, pour certains, mais ou proches de la résistance pour Primo Levi, est-ce qu'on a bien transmis notre témoignage pour que les nouvelles générations sèment elles aussi la terreur du côté de, on peut dire, de l'héritage de la résistance et de l'antifascisme. Alors ça, c'est déjà un choc. À cela s'enchaînent d'autres chocs, on peut dire, de société, hein, qui sont les vagues de la pornographie nazie, le négationnisme, et puis une défection progressive de l'écoute des jeunes pour ses propres témoignages. Finalement, il y a l'impression qu'on le regarde comme quelqu'un qui vient d'après-histoire et ça l'affecte profondément. Ça l'affecte profondément au point qu'il ne veut plus faire de témoignages dans les écoles. Alors, il en fera encore quelques-uns, mais il sent une fatigue, une véritable fatigue testimoniale qui vient interroger chez lui la façon dont le témoignage a été transmis.
Et puis il y a aussi peut-être ce qui explique peut-être son geste, son suicide, en partie, mais on n'explique jamais totalement ces actes, le fait qu'il se considère finalement comme, par définition, puisqu'il est un survivant, comme quelqu'un qui forcément soit était privilégié, soit faisait partie de cette zone grise qu'il a voulu décrire à la fin de sa vie et sur laquelle il butait, c'est-à-dire ces questions de compromission, ces questions de privilège, et qui font que finalement les témoins, par définition, ne sont pas représentants de ceux qui ont été assassinés.
Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que le témoin se retrouve en porte-à-faux. C'est-à-dire pour témoigner, il faut avoir survécu. Mais avoir survécu, ça veut dire déjà avoir survécu à la sélection. Et puis après, avoir survécu quand même au camp, c'est-à-dire avoir pu organiser, pour reprendre le terme qui a son équivalent strict en italien, c'est-à-dire un peu magouiller, bricoler, pour avoir un peu plus de pain, avoir un certain nombre d'éléments des vêtements... qui permettait la survie. Hein, si on n'arrivait pas à se débrouiller, on mourrait très vite, ne serait-ce que de d'épuisement. Hein. Donc c'est évidemment une situation qui s'accroît de plus en plus, avec la prise de conscience que seuls ceux qui ont réussi à s'accommoder dans le camp, au camp, et à la vie du camp, ont pu survivre, alors que les autres ont été ou assassinés immédiatement, ou sont morts d'épuisement, de fatigue ou de maladie.
Alors peut-être pour terminer, Philippe Ménard, vous pouvez peut-être, est-ce qu'aujourd'hui vous comprenez d'une manière ou d'une autre le geste de Primo Levi qui donc décide de se jeter dans sa cage d'escalier en 1987, un geste qui peut-être donne raison à Joseph Bialou qui disait que pour certains on ne sortait jamais d'Auschwitz.
Alors oui et non, c'est-à-dire que je pense que c'est la réponse doit être à l'image de cet homme qui était extrêmement divisé. Primo Levi était extrêmement dépressif et cette dépression dont il avait ressenti les premiers signes avant-guerre, hein, adolescent, est revenue de manière très régulière à partir des années 60. Donc cette dépression pouvait aussi le conduire au suicide. Il était sous antidépresseur jusqu'à la fin de sa vie, puisque son infirmière lui fait une piqûre d'antidépresseur juste avant qu'il se suicide. Et effectivement, il y avait déjà quelque chose qui, on peut dire, à partir de la dépression, pouvait très bien l'amener au suicide, d'autant que son grand-père s'était suicidé exactement dans les mêmes circonstances. Et puis, il y a effectivement un côté, un aspect très troublant, c'est que, hanté par cette figure, précisément, de ceux qui n'ont pas survécu, il est confronté, pendant les derniers temps de son existence, à sa mère qui est atteinte d'un cancer, qui elle-même est extrêmement dégradée physiquement, et il le dira peu de temps avant son suicide, qu'en voyant sa mère, il a l'impression de revoir le corps délabré, dégradé, malade, des déportés sur le Chali.
Merci beaucoup Philippe Ménard. Je rappelle que votre livre, donc Primo Levi, Le passage d'un témoin, est paru donc aux éditions Fayard. C'était Mémoire vive, une émission de la Fondation pour la mémoire de la Shoah. Deux adresses pour nous retrouver et nous réécouter sur internet, www.radio-rcj.info, le site des archives de l'émission, www.mémoirevive.net. Retrouvez tout de suite Ilana Sicurel dans 10 mois qui tu sais, je te dirai qui tu es. À dimanche prochain.